À vous la suite. L'appartement du dessous de Florence Herlemann, livre ayant gagné le prix Horizon en 2020. La bibliothèque d'Écla vous propose de jouer avec elle. Qui aura la meilleure intuition? Qui comprendra le mieux les personnages, leurs sentiments et leurs intentions? Vous allez entendre dans quelques instants le début d'un livre, légèrement retravaillé pour ne pas être trop long. Nous vous proposons d'essayer de deviner ce qui arrive dans la suite de l'histoire. Vous pourrez nous communiquer votre réponse par message audio, par mail ou même par téléphone. D'ici 15 jours, nous vous enverrons la fin qu'a choisie l'auteur. Une compilation des meilleures idées de suite sera également proposée. Le livre est bien sûr disponible à la bibliothèque si vous souhaitez le découvrir dans sa version intégrale. Bonne écoute. L'appartement du dessous de Florence Herlemann, H-E-2-R-L-E-M-A-2-N, aux éditions Albin Michel, année 2019. Paris, ce dimanche ensoleillé du 17 avril. Je ne me présente pas, pas tout de suite. Je m'expliquerai plus tard sur cette volonté que j'ai, parfois, d'envoyer valser les usages. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Je ne vous donne pas la trentaine. Vous êtes une bien jolie fille. On a dû vous le dire un bon nombre de fois. Vous devez avoir du succès, d'où mon étonnement de vous savoir seule. Mais là n'est pas l'objet de cette lettre. Hier, je vous ai aperçue et surtout, je vous ai entendue. Les emménagements sont toujours bruyants, mais comment peut-il en être autrement? C'est ainsi. Vu le nombre impressionnant de cartons et de meubles que vous avez charriés avec vos aides, je me demande comment vous vous y êtes prise pour faire rentrer tout ce barda dans un si petit appartement. J'ai vu beaucoup de petits cartons, c'est le format que l'on réserve au transport de livres. Vous êtes une lectrice donc. C'est une bonne chose. Bien sûr, il faudra me dire quel genre littéraire vous affectionnez. Je ne vous imagine pas le nez plongé dans des romans de gare ou quelque autre récit dégoulinant de bons sentiments. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous suggérer des lectures. J'aime lire. Je lis tout ce qui ne me tombe pas des mains. Éclectique, mais sélective. J'ai également remarqué que vous appréciez les plantes vertes. En revanche, je n'ai pas vu de chat trimballé dans sa caisse. Nous avons tous un chat dans cet immeuble. Leur compagnie est apaisante et bénéfique. Ils aiment la musique et les étagères garnies de recueils. Quel étrange constat! Les chats aiment les livres. Je ne sais combien de fois j'ai surpris Suzanne couchée sur le livre que j'étais en train de lire. Je la soupçonne de préférer cet inconfortable objet au moelleux de son coussin. Quelque chose me dit que vous finirez par en adopter un. Vous me direz quand vous aurez trouvé le fauve de vos rêves afin que je vous prodigue quelques conseils avisés pour parfaire son éducation. De mémoire, votre appartement est relativement clair. On m'a dit que les nouveaux propriétaires l'avaient totalement fait refaire. La semaine dernière, en revenant des courses, j'ai croisé des compagnons de l'entreprise de rénovation qui terminaient de nettoyer la cage d'escalier. Ici, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de gardienne. Alors, chacun prend soin de son mètre carré de palier. Cela fait partie des coutumes de l'immeuble. Nous ne sommes pas très nombreux et tenons à ce que notre petite copropriété reste agréable à vivre, propre. Jusqu'à présent, cela a toujours très bien fonctionné. Il n'est pas question qu'il en soit autrement. Vous ne me contredirez pas, j'en suis sûre. Pour en revenir à votre nouveau chez vous, je l'imagine rénové de façon charmante. Vous devez avoir une jolie cuisine équipée, comme on dit. Bien commode quand on aime confectionner des petits plats. Moi, je ne cuisine plus. Je me contente de peu. Une soupe de légumes, quelques fruits, parfois des laitages. Je suppose qu'on vous a également aménagé une salle de bain. Baignoire ou cabine de douche? Les bains délassent, je vous l'accorde, mais ils contribuent au gaspillage d'eau et à l'assèchement de la planète. J'espère que vous faites partie de ceux qui la respectent, notre planète. Pour ma part, je vais aux bains-douches municipaux. Dans ce très vieil appartement que j'occupe depuis des décennies, il n'y a ni douche ni baignoire, vous l'aurez compris. Autrefois, aller au bain était une sortie agréable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On y rencontre une nouvelle sorte d'usagers. Beaucoup d'étrangers, des sans-papiers, des gens dans une situation vraiment précaire. C'est malheureux de voir ça. Du coup, ça devient moins plaisant de s'y rendre. Revenons-en à vous. Je ne sais pas si vos propriétaires vous ont parlé de la précédente occupante. J'imagine que non. En général, les propriétaires testent ce genre de tragédie. L'idée n'est pas de vous effrayer ou de vous mettre mal à l'aise. Je me suis toujours engagée à dire les choses, que cela plaise ou non. Elles doivent être dites, un point c'est tout. Il me semble normal que vous sachiez. Donc, je n'irai pas par quatre chemins. Avant vous, dans cet appartement, vivait une vieille femme. Vieille, sale, avare, seule et méchante. Vieille, c'est une certitude. Elle a emménagé il y a très longtemps. Elle était déjà âgée lorsqu'elle est arrivée, alors forcément, avec le temps, cela ne s'est pas amélioré. Sale, sans aucun doute. Elle laissait traîner ses sacs poubelles sur le palier, souvent ouverts et débordant de détritus, et ce parfois plusieurs jours durant. Elle attendait que nous soyons suffisamment incommodés par l'odeur pour les descendre à sa place. L'ordure. Croyez-le ou pas, je n'ai jamais cédé. Jamais je n'ai ramassé ses poubelles. Avare, je vous le certifie. À la période des étrennes, il ne fallait pas compter sur elle pour donner la pièce aux pompiers ou aux éboueurs. Elle leur ouvrait la porte, les regardait avec ce drôle de regard en biais qui la caractérisait, puis refermait la porte sans un mot. La vieille bourrique avait les poches pleines d'oursins. Méchante, c'est ce que je suppose. À vrai dire, je ne la connaissais pas personnellement, même s'il m'arrivait de la croiser parfois, comme on croise ses voisins. Mais elle ne desserrait pas les lèvres, ne m'adressait même pas un salut en guise de bonjour. Et puis, toujours ce même regard de biais. Une caricature. L'exacte réplique de la truculente Carmen Crue. Connaissez-vous le long? Cette bande dessinée est désopilante, à souhait. Seule, elle l'était assurément. Sauf le jeudi, il est vrai. À heure fixe, une autre vieille femme venait lui rendre visite. Elle repartait toujours en pleurs. J'en ai déduit qu'il devait s'agir d'un membre de ce qui lui restait de famille, peut-être une cousine, une sœur, car enfin, qui aurait pu supporter d'être rabroué de la sorte s'il n'y avait pas autre chose, un lien de parenté ou même un lien de consanguinité, qui sait? Je médis, je médis. La visiteuse, en plus d'être mal fagotée, avait en permanence collé sur le visage un insupportable air niais. Et puis voilà qu'un beau jour, cette pauvre femme, toujours à se moucher et à essuyer ses larmes, s'est mise à hurler en tambourinant à toutes les portes. Elle suppliait qu'on appelle les pompiers. La vieille avait trépassé. Elle était morte, seule, étouffée par sa vomissure, m'a raconté un voisin. Quelle fin écœurante, triste et écœurante. Honnêtement, cet épisode sordide nous aura remué le sang. Voilà l'essentiel de ce que vous devez savoir. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas de celles qui appliquent les usages à la lettre. Je les applique certes, mais dans un ordre qui est le mien. Cette petite rébellion me procure quelque joie. J'occupe l'appartement qui se trouve juste au-dessous du vôtre. Je vous souhaite la bienvenue, mademoiselle, dans notre charmant petit immeuble. À bientôt de vous lire, Hectorine. Paris, ce samedi 30 avril, tôt le matin. Une nuit blanche vaut deux jours noirs, le saviez-vous? Entre les douleurs qui ont assailli ma pauvre carcasse, intensifiées par le vacarme qu'occasionnait votre pendaison de crémaillère, et vos rires, vos échanges brillants, vos pieds tapant fortement sur le plancher, votre musique, votre étrange musique tonitruante. Sans compter le brouhaha qui s'échappait de votre fenêtre ouverte et résonnait dans la cour. Je ne parlerai pas du bruit des meubles et des chaises, entre autres, que vous traîniez d'une pièce à l'autre. Résultat, je n'ai pas dormi. Allongé dans l'obscurité de ma chambre, j'avais beau vouloir de toutes mes forces faire abstraction de ce vacarme, il m'a été impossible de sombrer complètement. J'étais dans un entre-deux, projeté au cœur des songes plutôt curieux. Je me suis par exemple retrouvé au beau milieu d'une corrida. Vous riez, vous avez raison. La scène était des plus niaises. Toujours est-il que c'est une première. Jamais il n'y a eu ce type de soirée dans notre immeuble. Encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne vous blâme pas. N'allez surtout pas imaginer que je fasse partie de ces vieux aigris qui n'aiment pas la jeunesse et qui oublient qu'eux aussi, un jour, ont été jeunes. Nous nous amusions différemment, avec des jeux et des musiques de notre époque. Une époque révolue, certes. Cela ne m'autorise donc pas à juger vos jeux et votre musique. Non, mademoiselle, je ne le permettrai pas. Il faut avoir vécu pour se rendre compte que la vie et son éphémère beauté ne sont que ce qu'elles représentent dans l'immédiateté de notre conscience. Si tant est qu'elle soit éveillée, notre conscience. Que la vie n'est en somme qu'un instant jubilatoire et fragile, saisissable juste le temps d'un claquement de doigts, rien de réellement perceptible. Comme le sable qui coule entre les doigts, comme il s'écoule dans le sablier au rythme du temps qui file, hémophile, sans que rien ni personne n'y puisse rien. Nous nous vidons tous de ce temps qui nous est imparti. Et oui, une belle supercherie qui maintient dans l'illusion que l'incessant mouvement du balancier ne cessera jamais jusqu'au jour où, sans crier gare, il s'immobilisera à jamais. Alors, nous disparaîtrons, car tout doit disparaître. Même les souvenirs s'éteignent comme les étoiles. C'est le noir absolu qui nous attend. La fin. Vous le vérifierez par vous-même en fréquentant les miroirs. Peu à peu, ils vous renverront cette insupportable transformation de votre reflet. Oui, le vôtre, sans se soucier de la violence avec laquelle vous recevrez l'indicible. Alors, vous comprendrez que la vie vous aura menti. Menti parce qu'elle ne vous aura pas laissé le temps de mesurer ce qu'est la beauté, de goûter pleinement la splendeur des choses, qu'elle aura passé son temps à vous prendre aussitôt qu'elle vous l'aura donnée. Vous offrira-t-elle la vie la possibilité de découvrir la saveur subtile de l'éphémère? Cette saveur, c'est tout ce qu'il nous reste à nous les vieux. Elle seule nous dispose à congédier la peur au ventre qui nous tenaille. Peur d'être rejetée, peur de votre arrogance et de votre mépris, peur de la mort qui veille, là, tout près. Non, je puis vous le promettre, je n'ai rien contre vous les jeunes, rien, je vous l'assure. Par exemple, cela ne me viendrait pas à l'esprit de rayer le charabia incompréhensible avec lequel vous vous exprimez. Et s'il m'arrive de me moquer, c'est toujours avec tendresse. Sachez, en tout cas, que votre arrivée nous a fait l'effet d'un raz-de-marée, d'un séisme de grande amplitude et sans précédent. Étrange mélange de crainte et de joie. Je ne désespère pas de vous lire, ce sera l'occasion de vous en dire plus. Je vais tâcher de me reposer à présent que vos amis ont libéré les lieux. J'avais pensé passer l'aspirateur et faire un peu de ménage, mais j'imagine qu'à l'heure qu'il est, vous dormez. Cela peut attendre lundi, ou un autre jour, qu'importe. Sincèrement, Hectorine. Dimanche 8 mai. Madame, tout d'abord, je tiens sincèrement à vous présenter mes excuses pour la gêne occasionnée lors de ma petite fête. Je croyais que prévenir tout le monde suffisait. Ensuite, je me permets d'apporter une petite précision au sujet de la vieille femme qui occupait cet appartement avant moi. En fait, il s'agissait de mon arrière-grand-mère maternelle. Je suis à présent la propriétaire de cet appartement que j'ai fait rénover et que j'ai décidé d'habiter plutôt que de le vendre. Je vous souhaite une bonne journée, Sarah. Paris, ce lundi 9 mai après-midi. Vous n'imaginez pas combien votre lettre m'a apporté de joie, Sarah. Je n'en revenais pas. Je ne l'attendais plus. J'ai vu ce petit carré de papier blanc posé sur mon paillasson. Je sortais faire des courses. J'ai aussitôt rebroussé chemin. Je n'ai même pas pris le soin d'enlever mon manteau de pluie. Vous avez vu comme il a plu ce matin. J'ai immédiatement posé mon cabas près de la porte d'entrée et me suis laissé tomber dans mon fauteuil. Mon cœur battait la chamade, tant j'étais pressée de vous lire. Quand j'ai repris mes esprits, délicatement j'ai déplié la missive. J'ai lu et relu votre prose. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était un peu court. Je ne vous en fais pas le reproche. À force de rien, on se contente de peu. Mais surtout, de l'effroi. Voilà ce que j'ai ressenti un premier temps. C'est le mot de l'effroi. Ensuite, la commotion laissant place à la raison, je m'en suis voulu de ne pas avoir envisagé une seconde que vous puissiez être une parente de la vieille. Comment pouvais-je deviner qu'il s'agissait de votre arrière-grand-mère maternelle? Je vous l'ai dit, nous ne nous fréquentions pas. Vous ne lui rendiez pas visite? Je ne vous avais jamais vu auparavant. J'espère que l'appartement vous plaît, que vous aimez le quartier. Je le connais bien, je l'ai vu changer, se métamorphoser, embellir. Pardonnez-moi, Sarah, j'use parfois d'un stylo trop cru. Je n'y vais pas par quatre chemins et je le regrette. Je suis là si vous avez besoin d'une oreille, de réconfort, de conseils littéraires ou musicaux. Et bien sûr, je serai toujours là pour vous lire et vous répondre. Sincèrement, Hectorine. Paris, ce mardi 24 mai, délicieux soleil. Sarah. Le printemps est enfin là. Quel délicieux soleil. Je suis allée me promener dans le quartier. J'aime ces rues sombres, encore pavées pour certaines. J'aime ces vieux immeubles. L'architecture est riche d'histoire. Les façades chantent aux caresses du soleil. La pierre s'illumine et resplendit. Quand le soleil l'embellit de sa présence, ce quartier me fait songer au fragile chatoiement de lumière de certaines œuvres impressionnistes. Il y a un je ne sais quoi de délicat, ce coin de Paris. Une atmosphère particulière que je ne retrouve nulle part ailleurs. Je l'aime pour sa singulière beauté, comme je l'aime notre marais. Avant, les vieux grouillaient par ici. Dans les cafés, on les voyait attablés devant une limonade ou dans les allées du marché des enfants rouges, leurs cabas débordant de fruits et légumes. Ils faisaient la queue aux portes des commerces, s'aéraient dans le parc en face de la mairie. Partout, il y avait des vieux. Aujourd'hui, ils se font rares. Pendant tout le temps de ma promenade, je n'ai pas croisé une seule vieille connaissance. Pourtant, j'en connaissais du monde. J'ai traversé la rue de Bretagne, continué par la rue de Bellième, puis la rue de Turenne, et je suis revenue par la rue Vieille du Temple. En chemin, je me suis perdue et me suis retrouvée rue des Archives, tout ça parce que j'étais en train de vous chercher une profession. Je me demandais quelle était celle qui vous irait le mieux. Je vous cherchais à travers chaque vitrine de magasin. Je vous ai même imaginé fleuriste. J'étais, c'est évident, influencée par cette envie de fleurir mon salon. Très vite, je me suis dit « Non, non, je ne vous vois pas tenir une boutique. Une librairie peut-être ? Non et non. Vous occupant d'enfants ? Institutrice, professeur de français, de lettres modernes, classiques. Non, non et non. D'autant que vous me dites ne pas être très à l'aise avec l'écriture. Or, les littéraires aiment les lettres sous toutes leurs formes. Dans le milieu médical ? Non, il n'y a pas d'hôpital à proximité. » Il y a bien l'Hôtel Dieu, enfin, il n'est pas vraiment tout près. Il faut tout de même traverser la Seine. Non. À moins que vous ne soyez dans cette nouvelle profession comme l'informatique ou quelque chose de ce goût-là. Si c'est le cas, je ne risque pas de deviner. Je ne connais rien à l'informatique. Êtes-vous dans l'informatique? Il n'y a pas de saut de métier. Mais assez joué aux devinettes, vous me direz un jour sûrement. Chaque seconde m'est précieuse. Je m'applique à ce que chacune d'elles soit empreinte de joie, de quiétude, d'étonnement de vivre, que chacune d'elles soit porteuse de couleurs chatoyantes. L'imagination et le rêve m'ont toujours permis de continuer d'avancer sur ce chemin de bataille qu'est le monde. Cela fait 103 ans que j'y travaille, même si l'on peut aisément soustraire les 11 premières années de ma vie qui n'ont été que tendresse et insouciante offerte. 11 années de délices, de douceur, de miel et de vanille. C'est à 11 ans que j'ai été frappée de plein fouet par l'aride réalité de notre monde, de ce que les hommes ont fait. C'est à 11 ans que la joie de vivre m'a quittée. Elle s'est défaite de moi, comme un tissu prématurément usé. Elle est tombée en lambeaux. À 11 ans, j'ai d'un coup acquis l'âge de raison. C'est un peu tard, certes, mais je vous assure que je l'aurais bien gardé encore, cet habit de lumière. Je l'aurais bien porté quelques années de plus. Je vous souhaite une agréable soirée, ma chère Sarah. Dans l'espoir de vous lire, qui sait, Hectorine. Dimanche 26 juin. Bonjour, madame. Je me suis dit que le mieux serait que nous nous rencontrions. J'ai donc frappé à votre porte hier matin, puis hier soir. Elle est restée fermée. Je vous ai cherché dans les passes jaunes, je ne vous ai pas trouvé. Hectorine n'est pas un prénom très commun, je pensais avoir une chance. Sur la boîte aux lettres qui correspond à la vôtre, il n'y a que deux initiales pour résumer votre nom et prénom. J'ai cherché, mais il n'y a pas d'Hectorine I à notre adresse. Avez-vous le téléphone? Vous êtes peut-être sur liste rouge. Je voulais vous proposer de venir chez moi dimanche prochain, vers 16h. Dites-moi, j'attends votre retour pour m'organiser. À bientôt, Sarah. Paris, ce lundi 27 juin, venteux. Bonjour Sarah. Enfin, j'ai pu vous lire. Je vous invite à m'appeler Hectorine, puisque c'est l'usage aujourd'hui. Je ne figure pas dans l'annuaire ni sur aucune liste, quelle qu'elle soit. Je n'aime pas les listes. Je n'ai pas le téléphone, je n'aime pas le téléphone. Je corresponds essentiellement par courrier. Chacun son code de communication. Je vous remercie pour votre invitation, mais je suis lasse aujourd'hui. Je le serai vraisemblablement aussi demain et une bonne partie de la semaine prochaine. Il n'est pas impossible que je le sois encore les semaines suivantes. Je ne sais jamais combien de temps dure cet état de prostration. De plus, je souffre d'allergies et avec ce vent qui transporte toutes sortes de pollen, j'évite autant que possible de sortir. Mes yeux sont rouges et bouffis et me démangent terriblement. Mon nez coule sans cesse et je vous passe les crises d'éternuement qui m'épuisent. Je ne réponds jamais quand on frappe à ma porte. C'est un principe. Tenez-vous-le pour dit. Je n'attends personne, donc je n'ouvre pas. Et puis, avec tout ce qui se passe de nos jours, je vous avoue ne pas être rassurée. Un tic de vieux, rien de plus, diraient certains. Un principe salvateur en ce qui me concerne. Vous ne m'avez toujours pas dit ce qui vous anime dans la vie. Je ne vous demande pas de me dévoiler votre intimité. J'aurais juste aimé savoir quelle est votre profession. Si elle vous rend heureuse, si elle vous permet de vous épanouir. J'ai lu dans je ne sais plus quel papier qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise veillent au bien-être de leurs salariés. Est-ce la réalité? Je me méfie de ce que racontent les journaux. La presse n'est pas aussi libre qu'elle veut bien nous le faire croire. Je me demandais également si cela vous arrivait de rendre visite à votre arrière-grand-mère. Je ne vous ai pourtant jamais vu ni entendu avant votre emménagement. Vous ne veniez pas la voir, n'est-ce pas? Il y a forcément une raison à cela. Peut-être qu'un jour vous m'en parlerez. Aimez-vous les gares? Vous allez évidemment trouver ma question saugrenue. Qu'importe. Quand ma santé me le permet, ce qui n'est pas le cas en ce moment, j'aime me rendre gare de Lyon. Je peux y rester des heures. Une fois sur place, je me pose devant le beffroi. Il est en général pas plus de 14 heures. J'évalue le temps pendant lequel je me mettrai entre parenthèses. 2 heures en général, guère plus. À peine arrivé sous la grande verrière, le phénomène se met en branle. Je me glisse dans le flux incessant de la foule qui va et vient. Je me laisse emporter par cette marée humaine dont les remous nerveux manquent parfois me faire chavirer. Jamais je ne chavire, j'ai le pied marin. Je me perds, m'oublie et me désapprends et deviens autre au milieu de tous ces voyageurs. Je me soustrais à ma vie et me dissous dans celle des autres en quelques secondes. C'est le phénomène qui veut ça. Là, au beau milieu de la foule dense et pressée. Embarqué dans cette folle farandole, je me mets à tournoyer avec eux. Grisé, perdu, brassé par ces hommes, femmes, enfants, accrochés à leurs sacs, valises, chiens, poussettes. Autour de moi, ça tourne à toute vitesse. Dans un sens, puis dans un autre. Poussé, transporté, ballotté, charrié, moi aussi, comme leurs sacs, valises et poussettes. Entraîné, moi aussi, vers un quelque part. Je ris parfois. Je ris fort, vous savez, mais personne ne le remarque. Tout le monde s'en fiche. Les gens se fichent éperdument les uns des autres. Personne ne s'intéresse à personne, surtout dans une gare. Et cela, voyez-vous, ça me fait rire. Alors je ris. Je ris de tout mon cœur, comme une vieille folle, sans crainte aucune de me ridiculiser, puisque tout le monde s'en fiche. Et la foule m'enlève, m'emporte, me fait tournoyer avec elle. J'ai le sentiment de faire partie du voyage. Où m'emmène-t-il? Quelle destination aujourd'hui? Heureusement, je retrouve toujours mes esprits à temps. In extremis, je m'extirpe de ce chavirivari dès que j'aperçois le bout du quai. À peine les voyageurs se sont-ils engouffrés dans le train que, fort gracieusement, je me détache de cette foule migratoire par une arabesque. Je rejoins le grand hall et vais m'asseoir sur un siège. Vous savez, un de ceux qui sont d'une si vilaine couleur bordeaux, juste devant le grand tableau annonciateur. Collé bien au fond de l'assise, je suis au spectacle. Je m'offre un autre point de vue. Cette fois, je ne participe pas, j'assiste. J'observe, je scrute cette humanité effervescente. Je la regarde qui marche, danse, patiente, rêvasse et trépigne. Puis, j'en repère un qui court. Il y en a toujours un qui court. Le retardataire a toujours ma sympathie. Je finis par ne voir que lui. Peut-être à cause de ses mimiques si particulières qui le différencient des autres. J'arrive presque à ressentir ses muscles bandés qui se contractent au fur et à mesure de la tension qui s'exerce. Son souffle est de plus en plus court. Il suffoque et se cramponne autant comme pour le ralentir, tel un naufragé s'agrippe à sa planche de salut pour échapper à l'abîme. Je suffoque avec lui. L'air me manque à moi aussi. Son visage est à présent plein de cette peur qui lui tord les traits et redessine au scalpel son sourire en un rictus incontrôlable jusqu'à la caricature. Il bouscule, râle, souffle, hirsute, l'air ahuri. Son billet à la main, il scrute éperdument le panneau d'affichage. Il est trop tard. Il le savait. S'il pouvait savoir combien à sa place j'aurais voulu rater ce train. ne pas monter dedans, ne pas y être obligé, me retrouver poussé, entassé. S'il savait qu'au fond, un train que l'on rate, c'est de la vie en plus, du temps offert indubitablement. Sa déception fait peine à voir. Il a manqué son train. Et alors, ai-je envie de lui dire, quelle importance ? Il en prendra un autre, c'est certain. Je ne me lasse pas de dévisager ces hommes, ces femmes en transit. C'est étrange, n'est-ce pas ? Lorsqu'on est dans une gare, on n'est nulle part. On n'est plus dans une ville, mais dans une sorte d'antichambre, de sas, un lieu de passage. On n'est pas là pour rester. On ne fait que traverser. Enfin, bien sûr, sans compter ceux qui y ont élu domicile, les laissés pour compte de la société, les fous égarés qui attendent je ne sais quoi, ou encore ceux qui y travaillent. Quand je me sens repu de cette vie grouillante, pleine de tumulte et de couleurs, j'entre à nouveau dans la danse, mais dans le courant contraire, celui des voyageurs arrivés à destination. J'assiste à des retrouvailles joyeuses, à des séances de baisers langoureux, à des élans de tendresse. Je m'en imprègne un peu. C'est bon la joie, c'est contagieux. Ensuite, je plonge une dernière fois dans cette foule dense et remuante, sachant qu'il me faudra redoubler d'attention pour éviter d'être bousculé, cogné, percuté par un sac en bandoulière ou renversé par un jeune chien fougueux tirant sur sa laisse. Et me voilà à nouveau sur le parvis de la gare, saine et sauve, rendu ivre par cette valse ferroviaire. Je reprends mon souffle, regarde le ciel, parfois parfaitement bleu, parfois uniformément gris, lourd, prêt à pleurer, mais toujours le vaste ciel. Il me faut rentrer à la maison, alors je monte dans le bus qui m'y reconduit. Durant le trajet, je m'assoupis un peu et me laisse envahir par le vertige de cette multitude de silhouettes dont la vision s'estompe au fur et à mesure des secousses que provoquent les arrêts fréquents du bus. Voilà, vous savez toutes mes escapades. Je ne m'en suis pas encore lassée. À chaque fois, je me promets d'y revenir. Cette singulière promenade me procure une sensation indéfinissable. J'en ai fait une habitude, un rendez-vous incontournable avec moi-même. Je ne sais pas si je remonterai dans un train un jour. Je ne l'ai plus fait depuis cette fameuse année. Un jour, vous comprendrez, je vous expliquerai, je vous raconterai. En attendant, je vous souhaite le bonsoir, ma très chère Sarah. Hectorine. Paris, ce samedi 9 juillet, tard dans la nuit. Madame, j'hésitais à vous répondre. Je sais que vous refusez de me voir. Je suis persuadée que vous saviez que c'était moi qui frappais à votre porte. J'avoue ne pas très bien saisir ce que vous attendez de moi. Oui, j'ai bien compris que vous cherchiez à m'imposer votre mode de communication. Là encore, grosse interrogation. De toute façon, je n'ai pas le temps, et honnêtement, ce n'est pas mon truc. J'ai relu votre lettre. La dernière est tellement bizarre, la fin surtout. Sachez, en réponse, que je n'aime pas particulièrement les gares. En fait, elles m'indiffèrent. Je m'y rends uniquement quand je dois prendre un train, comme bon nombre de gens. Vous souhaitiez savoir ce que je fais dans la vie ? Je suis graphiste, illustratrice. Je travaille pour une petite maison d'édition. Je m'occupe de la mise en page et de la réalisation des couvertures. Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir m'écrire et me lire ? Pourquoi épiez-vous mes allées et venues ? Qu'attendez-vous de moi ? Je vous souhaite une bonne journée. Sarah. Paris, ce dimanche 17 juillet, ciel capricieux. Ma très chère Sarah, j'ai quelque peu tardé, j'étais lasse. Je vous l'avais dit. Je vais mieux maintenant. J'ai souri quand j'ai lu que vous étiez dans l'édition. J'ai par le passé travaillé pour certains des éditeurs de renom. J'ai eu quelques contrats pour eux. J'ai été traductrice, entre autres. Si vous saviez combien j'ai aimé ce travail, ces années ont été source de grande joie. Peut-être qu'avec le temps, vous vous rendrez compte que l'écriture est un acte plaisant. Il suffit de vous laisser porter. J'ai confiance, vous aimerez. Je comprends que vous puissiez trouver mes lettres étranges. Certains passages sont des bouquets de sensations, d'émotions, cueillis dans une vie aujourd'hui en friche. Je prie pour que votre embarras ne vous retienne pas d'aller plus loin, mais qu'il vous y incite au contraire. Si vous choisissez de continuer à me lire, je vous expliquerai certaines choses pour que vous puissiez faire lien. En contrepartie, je vous demande de bien vouloir, à votre tour, vous dévoiler un peu, afin que nos échanges soient pleinement partagés et sincères. À vous lire, Hectorine. Samedi soir du 23 juillet. Bonsoir, madame. J'ai cru que vous aviez finalement abandonné. Mais non. À ce stade, on pourrait qualifier cela d'harcèlement. Le plus bizarre, c'est que vous ne répondez pas à ma question. Mais enfin, qu'attendez-vous de moi ? Je ne peux pas vous empêcher d'écrire. Mais pour quelle raison m'adressez-vous ces lettres? Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de ne rien attendre de moi en retour. Je n'ai pas le temps. Nous ne sommes qu'à une volée de marche l'une de l'autre. Rien ne nous oblige à nous voir en cachette, rien ne nous empêche de nous rencontrer. Par ailleurs, que je sache, aucun lien particulier entre nous n'explique votre obstination à vouloir prendre de mes nouvelles. Je ne comprends pas. Tout cela est déroutant. J'espère que vous comprendrez. Bonne soirée, Sarah. Paris, ce dimanche 24 juillet, la nuit s'en vient. Ma très chère Sarah, je ne vous demande pas de vous jeter d'un pont sans parachute. Même si j'ai l'intuition que vous n'êtes pas réfractaire aux sensations fortes. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que je ne vous mettrai jamais en danger. Après tout, il ne s'agit que de lettres, de souvenirs offerts, de confiance et de respect mutuel. Si vous décidez d'accepter cette correspondance, sachez que vos lettres seront toujours attendues, dans la limite du raisonnable, il va sans dire. J'aimerais tellement que vous changiez d'avis, si vous saviez comme cela me rendrait heureuse. La littérature a toujours fait partie de ma vie. Elle m'a permis de croire encore en l'humanité, lorsque ce mot n'était devenu pour moi qu'une idée dénuée de sens, une coque vide. Elle m'a indiqué le chemin, m'a aidé à distinguer ce qui a du prix de ce qui n'en a pas. Elle m'a donné la force de continuer à garder la tête haute, à sourire, à ressentir, à rêver. Elle m'a appris à supporter la douleur, le froid, à contenir ma colère, à adoucir mes peines, à grandir, à aimer et à aimer encore. Elle m'a sauvé la vie. Je suis née à Berlin, en décembre 1913. Le premier jour du mois, pour être précise. Vous n'aurez aucune excuse si vous oubliez le jour de mon anniversaire. J'aurai 104 ans cet automne. C'est totalement insensé, je vous l'accorde. Je n'ai rien fait pour cela, je vous l'assure. N'allez surtout pas perdre votre temps à imaginer que j'ai pu consommer je ne sais quel élixir de jouvence qui m'aurait permis de traverser les années sans encombre. Je vous le répète, je n'ai aucun secret de longévité. Mon père était français. C'est au cours d'un de ses déplacements professionnels à Berlin qu'il a rencontré ma mère. La suite se devine aisément. Il a fait le choix de quitter Paris, mais en s'engageant auprès de ma mère d'y revenir chaque été. Ce ne furent pas des paroles en l'air, puisque nous allâmes retrouver ma Paule, c'est ainsi que nous appelions ma grand-mère, peu de temps après ma naissance. Mes souvenirs avec elle remontent à ma cinquième année. J'étais blottie tout contre son épaule, écoutant avec ravissement les extraordinaires histoires qu'elle me racontait. Quelle fabuleuse conteuse c'était! Je m'endormais dans son odeur d'eau de rose, fragrance qui, encore aujourd'hui, me ramène au moelleux de sa poitrine. Ma Paule nous accueillait avec un magnifique sourire, une promesse d'un bonheur qui nous submergeait à peine franchi le seuil de sa maison et faisait disparaître d'un coup toute la fatigue accumulée par le long voyage. Mais avant ma Paule, Montmartre et Célila, nous partions en villégiature sur la côte fleurie, au pays d'Auge, Cabourg. Puis nous gagnions Paris par une quinzaine de jours avant notre retour à Berlin. Maman exigeait la halte à Cabourg comme une enfant capricieuse. Elle vantait entre autres les bienfaits de l'air iodé des bords de mer. Mon père comprit très vite que ce n'était qu'un prétexte et que son insouciance avait un nom, Marcel Proust. Cette semaine en Normandie se limitait au cœur de la ville et à sa longue promenade sur la digue. Elle vouait à cet écrivain une adoration sans bornes. Elle avait lu et relu du côté de chez Swann, publié l'année de ma naissance, et depuis s'abîmait dans cette œuvre durant cette longue nuit d'insomnie. Maman avait contracté cette maladie curieuse juste après qu'elle m'eût donné la vie, causée par l'angoisse de la mort subite du nourrisson. Dès notre arrivée, nous allions prestement déposer nos bagages dans un petit hôtel qui, bien évidemment, ne se trouvait pas à plus d'une centaine de mètres de celui où avait séjourné l'écrivain, décédé depuis peu. Sa disparition, fin 1922, avait d'ailleurs plongé ma mère dans une dépression qui l'avait obligée à garder le lit plusieurs semaines. Mon père, impatient de la voir sortir de cette langueur inquiétante, lui avait même proposé de prolonger notre prochain séjour à Cabourg de 2 semaines, ce que nous fîmes. Pour l'occasion, maman se para de ses plus belles toilettes. Nous la suivions avec mon père, tandis qu'elle accélérait le pas pour arriver plus vite devant le majestueux hôtel de Balbec, somptueusement décrit dans la recherche. Nous faisions d'incessants allers-retours sur la fameuse promenade qui longe la plage. Mon père et moi sentions ma mère à l'affût, aimantée, inspirée, presque haletante, persuadée de ressentir la présence du maître, ainsi qu'elle nommait son écrivain adoré. Elle souriait fièrement aux dames coiffées de hauts chignons sous des ombrelles claires qu'elle croisait, et sans en avoir conscience, elle se donnait des airs de femme du monde qui nous amusaient beaucoup. Elle tenait fièrement le bras de mon père qui, lui, gardait le regard rivé vers l'horizon bleuté en rêvant d'huîtres et de vin blanc. Aveu qu'il me fit des années plus tard. Maman, d'un soupir bruyant, semblait désolée lorsque nous nous approchions du grand hôtel. Voir Proust et mourir. Voilà ce qu'elle nous disait, la voix tremblante, lorsque nous rentrions le soir, portant à bras le corps son immense déception. Jamais elle ne pourrait espérer rencontrer l'auteur d'À la recherche du temps perdu. Et ce constat la meurtrissait. Et puis, le temps fit son œuvre, maman devint moins obsessionnelle. Nous n'allâmes plus sur la côte fleurie. L'air de Cabourg, la promenade, le grand hôtel la rendaient trop mélancolique. Même le bleu du ciel, le scintillement de la mer et ses vertus ne suffirent plus à la rendre joyeuse. Papa décida alors que, désormais, nous passerions toutes nos vacances à Paris, chez ma Paule, pour ma plus grande joie. Chaque année, nous séjournions chez elle 3 semaines entières. Ah, je me souviens de Montmartre en ce temps-là. Ce quartier avait fière allure. Maman nous demandait gentiment de l'accompagner au cimetière du Père-Lachaise. J'associais toujours des images à ce nom curieux. J'imaginais un vieux grand-père, aux sourcils broussailleux et à la longue barbe blanche, assis sur une chaise devant l'entrée du cimetière pour en assurer la garde. Évidemment, maman prévoyait de faire un crochet sur la tombe de Monsieur Proust. Mon père, bonne patte, acceptait de l'accompagner. Ma grand-mère proposait de me garder auprès d'elle, prétextant que les cimetières n'étaient pas des lieux pour les enfants. Nous nous retrouvions ensuite dans un petit restaurant de la rue des Trois Frères, tenu par un ami de ma Paule, à quelques minutes de la basilique du Sacré-Cœur. Après le déjeuner, nous partions à la conquête des boutiques parisiennes. Maman nous entraînait dans les magasins les plus en vogue. Nous achetions des vêtements chers et chics, repartions les bras chargés de paquets. Une atmosphère légère avait submergé la ville qui nous plongeait dans un état de folie douce. Les hommes, je me souviens, étaient très élégants. Quant aux femmes, elles avaient beaucoup d'allure. Pas toutes, bien sûr. Bon nombre d'elles continuaient de s'aliéner en portant un corset, véritable instrument de torture. Il fallait que leur cambrure soit bien prononcée pour que leur forme voluptueuse soit mise en valeur. Croupe rebondie, poitrine projetée vers l'avant, leur assurait un port élégant dans les salons mondains. Mais à quel prix? Celui d'endurer sans broncher les supplices qu'imposait une certaine image de la grâce française. Ridicule quand on y pense. Vous auriez vu ça? Heureusement, la mode à la garçonne, comme on disait alors, commençait à apparaître. C'était ces silhouettes-là qui me plaisaient. Elles libéraient les corps en les parant de lignes fluides, doux tissus de soie, mousseline et dentelle. Bien sûr, les femmes auraient encore beaucoup à faire avant de s'affranchir. Ce n'était qu'un début. Mais il était prometteur. Il est tard. Je suis fatiguée d'écrire. Mes mains me font souffrir. Je vais me faire réchauffer un bon bol de soupe et me mettre au lit. J'attends de vous lire. Affection. Hectorine. Paris, ce jeudi 4 août, grand soleil. Ma très chère Sarah, rien de vous. Je ne perds pas espoir. Vous y viendrez. Vous ignorez sans doute encore que nos murs ne sont pas très épais. Et si, par-dessus le marché, vos fenêtres restent ouvertes, je peux entendre, bien malgré moi, certaines de vos conversations. Je suis vieille, mon sommeil n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus grand-chose de réparateur, et j'ai pourtant besoin de repos pour être encore capable de traîner ma carcasse qui craque de partout et me fait souffrir. Je n'ai vraiment pas le droit de me plaindre, j'avoue. Ma vue est encore bonne, je peux lire et écrire. J'ai peut-être subi une légère perte auditive, mais rien de vraiment significatif. Et vous me croirez si vous le voulez, j'ai pratiquement toutes mes dents. Mes cheveux sont longs et tressés. Je porte cette natte sur le côté depuis plus de 50 ans. J'en coupe le bout parfois pour en supprimer les fourches, c'est tout. Elle était brune autrefois, naturellement. Avec le temps, elle est devenue blanche. Je m'y suis faite. On se fait à tout, vous savez. Moi, non, je n'ai pas à me plaindre. Notez bien que je fais tout de même attention à ce que je mange. Pas de surpoids qui pourrait m'alourdir, me priver de cette autonomie qui m'est si précieuse. Je ne suis pas assaillie comme beaucoup de vieux par des bobos intempestifs. J'ai seulement de ces douleurs mécaniques, signe d'une arthrose persistante. Mais quoi de plus normal à mon âge? Rien de bien méchant, en somme. Voilà, j'espère que vous apprécierez ces quelques précisions sur mon état de santé. Dans une prochaine lettre, je vous glisserai une photo de moi à votre âge. Vous devez pouvoir mettre un visage sur ces lignes. Je tiens à ce que l'image que vous ferez de moi vous plaise, du moins vous rassure. Hors des questions que vous soyez horrifié par le vieux parchemin que je suis devenu. Je n'en souffre aucunement, croyez-le bien, mais je tiens à vous préserver et à rendre notre correspondance la plus agréable possible. Ressemblez-vous à votre mère? La question peut vous sembler déplacée, mais elle ne l'est pas. Je ne vous l'ai jamais dit, mais nous nous sommes croisés dans le hall de l'immeuble le jour de votre emménagement. Vous ne devez plus vous en souvenir, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce jour-là, j'ai vu vos yeux. Ce qui m'a frappé, c'est que votre arrière-grand-mère avait pratiquement les mêmes. Je m'explique. Je ne parle que de leur forme, de leur incroyable couleur, probablement due à la pigmentation jaune clair de votre iris. Mélange subtil de vert et de reflets dorés dont le résultat est impressionnant. On pourrait presque s'immobiliser devant vos yeux, tant leur éclat est admirable. En revanche, l'expression de votre regard, je vous l'assure, est différente. Il en émane une douceur, une générosité que je ne connaissais pas à votre arrière-grand-mère. Paix à son âme. Enfin voilà, ma chère Sarah. Je me demandais seulement si votre mère avait ces mêmes yeux que les vôtres, ou plutôt ceux de sa mère à elle. Simple curiosité. J'aimerais beaucoup connaître les raisons qui ont causé cet éloignement entre vous et votre arrière-grand-mère. Vous m'en parlerez peut-être. Je ne veux pas vous brusquer, les choses doivent venir naturellement. Concernant le récit que je vous ferai de certains épisodes de ma vie, je tiens à vous mettre en garde. Je n'ai aucune note susceptible de m'aider à me souvenir. Ces épisodes que je ferai revivre sont si lointains qu'il se peut que ma mémoire revienne dans le désordre. Il se peut aussi que je radote, que je déraille, que j'invente ou que j'y magnifie ma drôle de vie. Il ne vous faudra en retenir que la substance, le plus profond, le sens caché. Le reste n'est que de l'habillage, vous me comprenez, n'est-ce pas? J'ai affaire à présent. Beau dimanche à vous. Hectorine. Paris, ce dimanche 7 août. Vous êtes incroyable, Hectorine. Je me demande vraiment où j'ai atterri en m'installant ici. Je suis persécutée par les lettres d'une vieille femme qui de surcroît refuse de me rencontrer. Vous devez avoir de sérieuses raisons pour refuser de me voir. J'en ai imaginé certaines qui m'ont fait froid dans le dos. Je n'ose pas vous les énumérer. Je tenais à vous dire que vos lettres me mettent très mal à l'aise, un peu comme si elles ne m'étaient pas véritablement adressées. De plus, j'insiste, je me sens épiée, surveillée, obligée de... S'il vous plaît, restons-en là. Je vous le répète, je n'ai ni le temps ni l'envie de répondre à vos lettres. Je ne comprends pas la nécessité d'une correspondance entre nous. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, la plupart des gens échangent par mail ou texto. Bref, ça n'empêche pas que si vous avez besoin que je fasse quelques courses pour vous, je m'en chargerai avec plaisir. Vous pouvez me glisser une liste sous ma porte et je déposerai les sacs devant la vôtre. C'est tout ce que je peux vous offrir. Vous avez sûrement vécu des choses incroyables et je comprends votre besoin de les raconter. Mais le mieux, je pense, serait que vous écriviez vos mémoires. Je peux d'ailleurs vous donner quelques adresses d'éditeurs susceptibles d'être intéressés. Désolé, mais c'est tout ce que je peux vous proposer. Pour que vous n'ayez plus à me les poser, voilà les réponses à vos questions. Autant vous le dire tout de suite, je ne répondrai à aucune autre. J'aurai 29 ans le 13 août prochain. Quant à mon arrière-grand-mère, ce que j'en sais, c'est ce que ma mère m'en a dit. Il y a quelques mois, quand elle a appris son décès par courrier notarial. Auparavant, on n'en avait jamais parlé. Je n'avais jamais posé de questions. Ma mère n'en savait pas plus que moi sur notre famille. Puis, un peu avant de mourir, sa mère a ressenti le besoin de lui confier quelques éléments. On a appris que mon arrière-grand-mère se nommait Lene. J'imagine que vous le savez. Elle était comme vous, allemande. Sacrée coïncidence, même si j'imagine que beaucoup de gens d'Europe de l'Est venaient chercher refuge en France à cause des horreurs de l'Allemagne nazie. La mère de mon arrière-grand-mère aurait connu pas mal d'hommes et aurait eu beaucoup d'enfants, tous de pères différents. Elle les aurait abandonnés au fur et à mesure de leur naissance dans un orphelinat dirigé par des religieuses. C'est là que Lene, mon arrière-grand-mère, aurait grandi. Après une enfance et une adolescence chaotiques, elle aurait collaboré à un journal communiste, puis aurait été accusée par les nazis d'actes antipolitiques et aurait été arrêtée et déportée dans un camp de concentration. Ma mère m'a dit qu'elle s'était évadée du camp avec d'autres déportés et qu'elle a trouvé refuge dans la banlieue de Berlin. Après quoi, je ne sais pas comment, elle a franchi la frontière et s'est installée à Paris, puis fiancée à un résistant avec qui elle a eu ma grand-mère, Marie. Lui, je crois qu'il a été dénoncé, fusillé, juste avant que Paris ne soit libérée. Ce qui est sûr, c'est que Lene ne s'occupait pas de sa fille, Marie. Elle l'a abandonnée, en quelque sorte. Il paraît que c'est en partie la gardienne de l'immeuble qui l'a élevée tant bien que mal. Plus tard, Marie est tombée amoureuse d'un étudiant en médecine. Ils ont vécu ensemble quelques mois dans une chambre de bonne, rue des Martyrs. C'est comme ça que ma grand-mère Marie s'est retrouvée enceinte de ma mère. Entre-temps, le père s'est évaporé. Être fille-mère à cette époque n'était pas une chose bien vue. Je ne sais pour quelle raison mon arrière-grand-mère Lène n'a jamais voulu voir l'enfant ni porter secours à sa fille. C'est un groupement féministe qui l'a accueillie et lui a trouvé un travail de retoucheuse chez un tailleur. Marie n'a jamais revu sa mère. Elle avait de temps en temps des nouvelles d'elle par des amis, je crois. Ce qui caractérise notre famille, c'est cette récurrence de l'absence du père. Les hommes n'auront occupé qu'un seul rôle, celui du géniteur. Pour le reste, toutes ces histoires sont loin de moi et me restent étrangères. Voilà, à présent vous en savez autant que moi sur ma généalogie. Toutes les familles connaissent plus ou moins ça, les non-dits, les mensonges, les faux-semblants et les rancœurs. Certaines portent des secrets honteux et inavouables. J'espère que ce n'est pas le cas de la mienne, mais au fond, je m'en fiche un peu. Je vous laisse et vous souhaite une bonne journée. Sarah. Paris, mardi 9 août, chaleur écrasante. Ma très chère Sarah, vous avez raison. Il est inutile de vous charger des bagages qui n'appartiennent qu'à vos aïeux. Ils vous encombreraient et vous empêcheraient d'avancer et risqueraient de vous conduire dans les mêmes écueils. Il faut briser le cercle. Évitez que le schéma ne se reproduise. Cela dit, votre arbre généalogique doit être étonnant. Il intéresserait sûrement bon nombre de spécialistes en la matière. Allez de l'avant, c'est la seule chose à peu près sensée que je puisse vous conseiller. J'imagine que vous n'avez pas connu votre père. Concernant l'éventualité d'une autobiographie, si j'avais voulu écrire mon histoire, pensez-vous vraiment qu'il m'aurait fallu attendre d'avoir bientôt 104 ans pour m'y mettre? Il est un peu tard pour ça, je pense. Il n'est pas loin de 14 heures, on étouffe. Mon ventilateur brasse de l'air chaud, c'est suffocant. La circulation des voitures devrait être interdite par ces journées carniculaires. L'air est particulièrement pollué, irrespirable. Je dois boire environ 3 litres d'eau par jour. Je passe mon temps en toilette. Pardonnez ces détails peu ragoûtants. Comme je vous l'ai écrit précédemment, je vous joins une photo de moi. Je devais avoir à peu près votre âge quand elle a été prise. Je travaillais à l'époque dans une ferme, d'où le décor. Je n'étais pas bien épaisse en ce temps-là. La vie était laborieuse, la guerre persistait. On se débrouillait comme on pouvait. J'en profite pour revenir à mon autobiographie, comme vous l'appelez. Bien avant que ces moments troubles de la guerre pour mes 10 ans, mon père m'avait offert le plus beau des cadeaux, un Noël à Paris, chez Maple. J'en rêvais. Maple nous avait longtemps décrit au fil de nos promenades ce Paris du début des années 20. J'avais tellement hâte de voir cela de mes yeux. Et c'est bien vrai que ce n'était que des folies, fêtes et carnavals. Une véritable parenthèse enchantée. Les femmes s'émancipaient, comme je vous disais. La jeunesse parisienne, lasse de s'incliner devant des drapeaux et de fêter les morts, débordait d'une insatiable soif de vivre. Elle venait de mettre en marche une véritable révolution culturelle. Mon père songeait sérieusement à regagner Paris et s'efforçait de persuader ma mère, qui résistait encore. Nous arrivâmes chez Maple le 20 décembre. Nous croulions sous le poids de nos bagages. Maple sut encore une fois, comme par enchantement, faire disparaître notre fatigue. Pour l'occasion, elle avait décoré un immense sapin de Noël. Tout y était. Rubans petits en soie, guirlandes de perles, boules de verre, c'était extraordinaire. Elle m'avait entendu pour que j'accroche à la cime de l'arbre la fameuse étoile de Bethléem. Je dus monter sur les épaules de mon père pour y parvenir. Le sapin montait si haut que l'étoile touchait le plafond. Cela me changeait un peu des Noëls allemands. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à cette époque, les petits Allemands n'étaient pas autorisés à voir le sapin décoré avant le passage du Père Noël. Le temps nous paraissait long. Nous devions nous trouver des occupations pour tromper notre impatience. Maman souhaitait vivement que nous respections cette tradition. Avant la très attendue soirée du 24 décembre, Maple nous fit écouter Fréhel. Je me souviens que papa s'était gentiment disputé avec elle pour imposer du jazz. Ma mère était plongée dans un nouveau roman à scandale qu'elle venait de se procurer. Elle ne le lâchait plus, ce diable au corps de Raymond Radiguet. Ce jeune auteur avait su défrayer la chronique, mais n'avait pas eu le temps de goûter au succès. Il décéda une semaine avant notre arrivée à Paris, ce qui toucha d'autant plus ma mère qui se découvrait une nouvelle passion pour les auteurs maudits. Mon père la surveillait du coin de l'œil tout en épluchant le journal du soir. Il craignait de revivre l'épisode Proust. Moi, j'étais blottie contre ma pôle. La tête contre sa poitrine, j'écoutais en boucle les fabuleuses histoires qu'elle me racontait, et sa voix me berçait jusqu'à l'endormissement. Je me réveillais souvent le matin sans pouvoir me souvenir comment j'étais parvenue jusque dans mon lit. Les après-midi, nous nous promenions dans Paris. Un ami de ma pôle nous emmenait dans son auto jusqu'à Montparnasse. Nous aurions pu y croiser, au hasard des terrasses animées des brasseries, des personnages comme Picasso, Modigliani ou Hemingway et Fitzgerald qui devaient y être à cette époque. Enfin, je ne sais plus. Jamais nous ne croisions aucune de ces figures du quartier. Nous revenions à Montmartre et nous allions nous consoler en flânant place du Tertre, qui était alors déjà livrée aux touristes et aux marchands de nostalgie qui camelotaient de la peinture au kilo. Mon père les maudissait. Il m'avait dit que c'était ici que Picasso avait présenté les demoiselles d'Avignon. À l'écouter, Montmartre n'était plus ce qu'ils étaient. J'étais, je pense, trop jeune encore pour comprendre à quoi il faisait allusion. Un soir, pour sortir ma mère de sa lecture, il décida de l'emmener à Pigalle écouter du jazz. Nous étions bien tous les quatre à Montmartre. Ma Paul nous gâtait. Quelque chose de doux et de bienveillant nous enveloppait. La nuit du 24 décembre dépassa toutes mes espérances. Ma mère et ma Paul avaient dressé une somptueuse table. Au centre trônait une énorme dinde dorée à souhait dont le savoureux fumet emplissait la pièce. Ce fut extraordinaire. Au matin, une avalanche de cadeaux nous attendait. J'étais heureuse. 2 jours après notre retour à Berlin, ma mère s'éteignait dans la nuit du 8 janvier. J'avais 11 ans. J'ai cessé d'être heureuse. Je me rendais compte avec horreur que ma vie venait de basculer dans un monde laid, injuste, abominable. Il y a comme un vide sous mes pieds, Sarah, comme une anomalie, une sensation vertigineuse. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est un véritable chamboulement intérieur qui vient de se produire. Un trouble profond causé par cette juxtaposition qui s'est opérée dans mon esprit. Le passé a pris la place du présent. Je vis une éclipse intérieure. Je regarde mes mains fanées, déformées par l'arthrose, tachées, ridées, sèches. Vieilles mes mains, si vieilles, usées. Pourtant, en même temps, j'ai l'étrange impression d'être encore cette très jeune fille, pleine de vie, de joie, de fougue. Une fraîcheur juvénile déboule au galop au fil des lignes que j'écris, bouillonne en moi comme l'eau vive d'une cascade. J'ai réveillé cet enfant, je l'ai sortie des limbes. Et depuis, enragée, elle frappe et cogne aux parois de ce corps qui s'étiole. Que vais-je faire de cette petite fille? Tout à l'heure, en vous écrivant, je retrouvais les effluves de ce Paris des années folles, les odeurs de la dinde de Noël, la joie de découvrir les cadeaux au petit matin, le bruit du papier Kraft que l'on déchire, le souvenir enivrant de ma mère, son regard, sa beauté, la douceur de sa main quand elle me caressait la joue. Je revois les yeux pleins de larmes de ma Paul au moment de notre départ. Je me souviens de cette écharpe de laine dans laquelle j'enfouissais mon visage pour cacher mes pleurs, et même de ces 2 petites fibres qui me chatouillaient le nez, de la moustache fine de mon père qui lui donnait un air rieur. Puis revint à ma mémoire cette autre odeur, l'odeur de maman sur son lit de mort, que j'embrassais pour la dernière fois. Et cette effroyable douleur étreignant mon cœur de petite fille. Je me souviens de la terreur ressentie à l'instant où j'ai pris conscience de la cruauté d'une réalité inimaginable, incompréhensible. Je ne m'y étais pas préparée. On ne m'y avait pas préparée. Aurions-nous inventé une sorte de machine à remonter le temps, Sarah? Je suis bouleversée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Hectorine.
Pourquoi Hectorine écrit-elle à Sarah? Que veut-elle vraiment lui dire au fil des mots? Comment va réagir Sarah? À vous la suite.